VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 3 novembre 2015. Au micro, Eric Manirakiza et Morgane Guiriec. Au sommaire ce soir.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans.
Au Mozambique, des affrontements entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition ont fait plusieurs morts.
Crash d'Airbus russe en Égypte, les enquêteurs ont commencé à analyser les boîtes noires.
Militarisation de la contestation au Burundi, un combattant à Bujumbura affirme que les groupes armés ne reconnaissent plus le pouvoir.
Nous n'allons pas mourir comme des chats, comme une petite dessus, les policiers avec des barrières. On s'est dit, nous aussi, nous allons nous organiser en cherchant nous aussi des armes.
Dans environ 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a été investi mardi, c'était aujourd'hui à Abidjan, pour un nouveau mandat de 5 ans. Les précisions de Lionel Gahima.
La main droite levée devant les membres du Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara, 73 ans, a juré de respecter et de défendre fidèlement la constitution de son pays. Vêtu d'un costume sombre, il a ajouté « Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment ». La cérémonie s'est déroulée à Abidjan en présence du président sénégalais Macky Sall, son homologue béninois Thomas Boni Yayi et le corps diplomatique. Le Conseil constitutionnel a validé hier sa réélection dès le premier tour avec 83,66% du suffrage. Alassane Ouattara a commencé les consultations pour former une nouvelle équipe gouvernementale. Il a aussi promis une réforme de la Constitution. M. Ouattara a largement devancé Pascal Afinguessan, candidat du Fonds populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo. Une partie du FPI avait appelé au boycott de l'élection par loyauté à l'ancien président ivoirien qui attend son procès à la Cour pénale internationale. Des législatives doivent être organisées dans les 2 prochains mois en Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, Alain-Édouard Traoré, dernier ministre de la communication de Blaise Compaoré, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Selon la presse locale, on l'accuse de malversation à la RTB, la radio-télévision publique.
Et au retour au calme relatif en République centrafricaine, bien que la situation reste étendue à Bangui, la capitale. Il faut dire que les conditions humanitaires se dégradent de jour en jour sur l'ensemble du pays. L'insécurité pousse la population à se déplacer vers les sites de réfugiés. Pascaline Magalé a joint la ministre des Affaires sociales, Eugénie Yarafa.
Nous avons commencé à assister nos compatriotes, notamment les victimes qui étaient dans les hôpitaux et puis les parents des décédés. Au niveau du gouvernement, nous avons commencé à les assister et au niveau de la présidence également, Son Excellence Madame la Présidente de la République nous a instruit, elle-même, elle est descendue sur le site pour commencer à compartir avec ses compatriotes. Et nous, on a continué sur le site, malheureusement, les derniers événements encore du 26 octobre ont poussé beaucoup de nos compatriotes à aller sur le site.
Eugénie Yarafa, ministre des Affaires sociales, joint à Bangui.
Shell, dans le collimateur des organisations de défense des droits de l'homme et de protection de l'environnement. Dans un rapport publié aujourd'hui, elle dénonce les fausses affirmations du géant pétrolier anglo-néerlandais sur l'étendue de ses activités de dépollution dans le delta du Niger, au sud du Nigeria.
Et des affrontements entre les forces gouvernementales et celles du principal parti d'opposition au Mozambique, la RENAMO, ont fait plusieurs morts depuis la semaine dernière dans le centre du pays. C'est ce qu'a affirmé la police mozambicaine aujourd'hui, n'est-ce pas Jacques Aristide?
Le porte-parole de la police, Ignacio Dina, n'a pas avancé de bilan des pertes humaines, mais a assuré que les chiffres qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, plus de 200 morts, sont faux. Les pertes humaines et matérielles existent, dit-il, mais elles ne sont pas de cette ampleur. Les affrontements entre l'armée et la RENAMO, qui contestent toujours le résultat des élections d'octobre 2014 et menacent de prendre le pouvoir par la force dans le centre et le nord du Mozambique, ont repris la semaine dernière dans le district de Morumbala, où la RENAMO a récemment installé une nouvelle base. L'AFP rapporte que le ministre de l'Intérieur, Basilio Montero, a fait savoir que la police poursuivrait son opération de récupération des armes de la Renamo jusqu'à ce que leur dernière base soit désactivée.
Crise politico-militaire en Libye, le ministre du plan des autorités non reconnues de Tripoli a été enlevé par un groupe armé. C'est ce qu'indique une commission du Parlement installée dans la capitale libyenne. D'après l'AFP, cette commission accuse ce groupe rattaché au ministère de l'Intérieur d'avoir attaqué la présidence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, suite dans l'enquête concernant le crash de l'Airbus russe en Égypte samedi dernier, les enquêteurs ont commencé à analyser le contenu des boîtes noires de l'avion, mais le président égyptien a prévenu que l'enquête pourrait être longue. Claire Morin-Gibourg.
Dans un entretien à la BBC, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a fustigé la propagande du groupe État islamique qui a affirmé samedi avoir fait tomber cet Airbus A321 en représailles au bombardement russe en Syrie. En l'absence de toute certitude sur les causes du crash, les autorités attendent beaucoup de l'analyse des boîtes noires. Les deux enregistreurs du vol qui a commencé en début d'après-midi au ministère de l'Aviation civile au Caire. Metrojet, la compagnie russe exploitant l'appareil, a assuré lundi que seul un facteur extérieur pouvait expliquer le crash. Elle a rejeté la possibilité d'une défaillance technique ou une erreur de pilotage et a souligné l'excellent état de l'avion. La chaîne de télévision CNN avance, elle, une autre théorie. Le renseignement américain a exclu que l'avion ait été abattu par un missile, indique CNN, tout en soulignant que les experts examinent d'autres possibilités.
Raid aérien sur la ville de Raqqa, capitale de facto de l'organisation État islamique dans le nord de la Syrie. L'AFP fait état d'au moins 23 personnes tuées, dont 13 combattants djihadistes et 10 civils. Également dans le nord de la Syrie, 10 civils ont été tués par des raids aériens sur la ville d'Alep, divisée entre quartiers contrôlés par le gouvernement et secteurs sous contrôle rebelle.
Et puis Morgane, deux jours après la victoire électorale des islamo-conservateurs en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan durcit le ton contre le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. De nouvelles frappes ont été lancées ce mardi des deux côtés de la frontière entre la Turquie et l'Irak. Par ailleurs, 3 militants kurdes sont morts aujourd'hui dans des affrontements avec les forces de l'ordre dans les provinces d'Akari et d'Odiyarbakir dans le sud-est de la Turquie, rapporte l'AFP.
L'homme politique irakien Ahmad Chalabi, partisan farouche de l'invasion américaine en Irak en 2003, est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque. Il avait 71 ans et était président de la commission finance du Parlement irakien. Chalabi est l'un de ceux qui ont convaincu Washington de l'existence d'armes de destruction massive en Irak sous le régime de Saddam Hussein.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, apporte des précisions sur l'usage du slogan « Mort à l'Amérique », souvent entendu dans les manifestations en Iran. Devant un groupe d'étudiants iraniens, l'ayatollah Khamenei a déclaré ce mardi que le slogan ne vise pas le peuple américain, mais la politique et l'arrogance des États-Unis. Cette rencontre se situait dans le cadre de l'anniversaire de l'occupation de l'ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979, occupation qui durera 444 jours. Les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques, mais des contacts ont eu lieu à haut niveau, notamment la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien, la participation de l'Iran au pourparlers de Vienne sur la Syrie.
Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a prévenu aujourd'hui son homologue chinois, Chang Wanchang, que l'armée américaine poursuivrait ses déplacements en mer de Chine méridionale partout où le droit international le permet. Déclaration qui intervient quelques jours après le passage d'un destroyer américain près d'îlots dont Pékin revendique la souveraineté. Monsieur Chang, pour sa part, a exprimé à nouveau le mécontentement chinois face à l'envoi du destroyer américain dans la zone. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion d'une réunion des ministres de la Défense. Et pour finir, une affaire qui défraie la chronique en Afrique du Sud. C'est bien l'affaire Oscar Pistorius. La Défense tentait de convaincre aujourd'hui les juges de ne pas renvoyer le champion paralympique en prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Au Nigeria, le géant de la téléphonie mobile sud-africain MTN a affirmé mardi que sa licence d'exploitation avait été renouvelée par les autorités de ce pays en dépit de l'amende de 5,2 milliards de dollars qui lui a été infligée pour n'avoir pas débranché à temps les cartes SIM dont les propriétaires ne sont pas identifiés. Début août, le régulateur des télécommunications du Nigeria avait enjoint aux sociétés de téléphonie mobile active au Nigeria de désactiver toutes les cartes SIM dont les détenteurs ne sont pas identifiés dans un délai de 7 jours, faute de quoi elles encouraient de lourdes sanctions. MTN, la plus grande société de téléphonie d'Afrique, n'a pas respecté ce délai et s'est vu infliger une amende de 1 000 $ pour chacun de ses 5,1 millions de clients non identifiés sur les près de 63 millions qu'elle a dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faudra plus de 26 milliards de francs CFA pour réhabiliter le pont Félix Oufouette-Boigny. C'est ce que rapporte le site Abidjan.net qui cite la primature ivoirienne. Cette réhabilitation figure parmi les projets du deuxième contrat de désendettement et de développement CD2 signé lundi dernier à Abidjan par le gouvernement ivoirien. Plusieurs projets sont programmés dans ce deuxième contrat, notamment plus de 59 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route Boaké-Fergué-Séguédougou. Au Cameroun, la Ligue camerounaise des consommateurs somme les producteurs de ciment de baisser le prix du ciment. La Ligue camerounaise des consommateurs n'est pas satisfaite des prix de vente actuels du ciment et elle a tenu à le faire savoir. Dans un communiqué de presse rendu public en début de semaine, l'association dirigée par Delor Magelin Kamgem annonce avoir donné 2 semaines aux industriels impliqués dans la filière du ciment pour baisser ses prix.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John Linden.
Voilà votre moment de sport à tout seigneur, tout honneur. Bagassi, bonsoir. Nous voyageons d'abord dans le pays des hommes intègres, ton pays, le Tour du Faso.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'était la cinquième étape. Hein. C'est l'Érythréen Michael Hampton qui a remporté cette étape de Koudougou à Bormo, longue de 115 km. La course a connu une chute à 1 km de l'arrivée et a contraint le capitaine malien Tidiane Sanogo à finir sa course sur le vélo d'un villageois. Le point avec notre correspondant Salif Kabore sur la route du Tour.
Le coureur malien Tidiane Sanogo qui a terminé la course sous le vélo d'un villageois est la principale victime dans cette chute.
Ce qui s'est passé à l'arrivée, lorsqu'on a lancé les sprints, il y a un blanc qui a accroché un autre. Ils ont fait tomber les gens quand même. Et je pense que toutes les équipes du Mali et Côte d'Ivoire et d'autres blancs, on est tombés quand même. Je me suis levé, mais j'ai trouvé que mon vélo s'est cassé. Les derrière s'est caché. Je n'ai pas d'autre choix. C'est à 1 km. On ne peut pas réparer le vélo pour arriver. Je me suis chercher un autre vélo du villageois pour faire l'arrivée, pour ne pas perdre mes temps quand même. Et c'est comme ça qu'on a fait l'arrivée d'aujourd'hui.
Dans ce lot, les Ivoiriens payent également le prix et Bachirou Conté raconte.
En fait, l'étape, on voulait la gagner, on l'a perdue, donc ça nous fait mal. Il y a eu des chutes à l'arrivée, donc ça crée des dégâts. On se bat, on est 7e au général, donc on se bat toujours. Il y a des pays qui n'ont même pas la 50e place ici, donc la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. À l'arrivée, j'ai un coéquipier qui n'arrivait pas à bien lancer. J'ai crié qu'il quittait, mais il n'arrivait pas, il ne comprenait pas.
Tu n'as pas de coordination?
Non.
L'Érythréen Michael Hampton a enlevé la course de 115 km 700 en 2h40 minutes 35 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,350 km/h. Boromo, sous la route du Tour, Salif Kabore, VOA Afrique.
Après le cyclisme Bagassi, la Coupe du Monde de moins de 17 ans au Chili, on connaît désormais les adversaires des deux derniers pays africains encore en lice.
Oui, la Belgique va jouer contre le Mali en demi-finale. Quant au champion nigérien, il rencontrera le Mexique qui a dominé l'Équateur hier soir 2-0.
Merci Bagassi. Au revoir.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Eric Manirakis en votre compagnie. Place au dossier du jour et on commence, Eric, cette deuxième partie d'émission avec le Burundi, votre pays.
Oui, Morgane, au Burundi, justement, il existerait des groupes armés organisés militairement pour se battre contre la police et d'autres forces gouvernementales. Un des combattants joint dans un quartier contestataire de Bujumbura, mais qui a requis l'anonymat, affirme qu'ils ont des chefs. Le dit combattant affirme également qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité du pays.
Et comme vous le savez, depuis la contestation du troisième mandat, certains d'entre nous, comme les policiers, les enlevés, disaient qu'ils les amène dans le bureau du service national de renseignement pour faire des enquêtes. Et après, on a remarqué qu'après, il y a des morts dans nos quartiers. Après avoir vu cela, on a pu nous-mêmes nous organiser pour faire une résistance contre tous ces gens qui se disent, soi-disant, sont des policiers, même s'ils ne sont pas des policiers. Certains d'entre eux, on les connaît, sont des gens des milices et bonnes la couleur. Ici, dans nos quartiers, l'insécurité est croissante chaque jour.
Et comment vous vous êtes organisé, justement?
On s'est dit, nous n'allons pas mourir comme des chats. On s'est organisé, on a nous-mêmes, comme une petite dessus, des policiers avec des barrières. On s'est dit, nous aussi, nous allons nous organiser, chercher une voie de sortie, les gars, en cherchant nous aussi des armes pour résister à cela.
Est-ce que vous avez des chefs ou est-ce que vous trouvez des armes?
Oui, des chefs, il y en a. Oui, on trouve des armes partout, comme vous le savez, dans notre région. Une fois qu'on cherche quelque chose à se défendre, on ne peut pas le manquer.
Et qui sont vos chefs? Est-ce qu'on peut avoir l'identification des chefs?
Non, les chefs, pour le moment, je ne peux pas vous le dire, mais il y en a des chefs comme une organisation militaire comme ça.
Et le président de la République a lancé un ultimatum de 5 jours à l'endroit de ceux qui combattent la police. Vous allez vous y conformer?
Non, nous n'allons pas nous conformer parce que lui aussi n'a pas respecté la Constitution. Il a fait un putsch constitutionnel. Nous allons continuer à résister contre cela. On va répondre aussi à la façon dont il le fait.
Et pendant la journée, des combattants se promènent à visage découvert avec les armes. Vous ne craignez plus rien?
Non, on ne craignait rien. Parce que pendant la journée, c'est là où les policiers viennent. Une fois les pick-up des policiers entrent dans nos quartiers, nous aussi, comme ils tirent à barrière, on porte nos armes pour résister à cela.
Un combattant joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura, et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
L'association Survie a déposé une plainte contre des responsables politiques et militaires français en poste au début des années 90. Selon un communiqué de l'association, cette plainte concerne des crimes contre l'humanité commis durant le génocide de 1994 au Rwanda. Lucie Lamont a joint Mathieu Lopez de l'association Survie à Paris.
On porte plainte contre des responsables français au sein de l'État qui ont été en poste au début des années 90 parce que nous considérons en tant que mouvement français que c'est de notre responsabilité de faire la lumière sur ce que notre État a pu faire aux côtés des génocidaires rwandais en 1994 en notre nom. C'est quelque chose qui pour nous est insupportable. On exige que notre État rende des comptes là-dessus, au moins que les personnes qui se sont rendues coupables de cette complicité soient traduites en justice.
Pourquoi vous ne citez pas les personnes qui sont impliquées clairement dans votre communiqué?
En fait, on a déposé au tribunal de grande instance de Paris une plainte contre X, puisque en fait, déjà il y a une grande opacité qui entoure tout ça. On a accès à certains documents qui ont pu être révélés par des travaux journalistiques ou de recherche, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Il y a encore beaucoup de documents qui sont sous le sceau du secret. Nous considérons que la justice, c'est justement à elle d'établir quelles sont exactement les responsabilités individuelles. Il y avait un organisme de personnes en place, c'était François Mitterrand qui était à l'Élysée, c'était Hubert Védrine qui était secrétaire général de l'Élysée, c'était l'amiral Langsat qui était chef d'état-major. Notamment, M. Védrine a reconnu devant une commission de l'Assemblée nationale qu'il y avait eu des livraisons d'armes pendant le génocide. On pense à tout le moins que la justice française doit entendre M. Védrine, par exemple.
Est-ce que vous avez des éléments de preuve sur la livraison d'armes par la France pour le génocide?
Oui, alors on a accompagné notre communiqué et évidemment notre plainte d'un grand nombre de pièces. On a versé environ 60 pièces à notre plainte, et vous pouvez en trouver environ une vingtaine à notre communiqué, donc des documents qui, selon nous, enfin où il y a parfois des témoignages directs de personnes qui ont vu des livraisons d'armes, des documents qui précisent que des armes ont été livrées. Et puis on peut considérer quand même que quand des hauts responsables français comme Bernard Kouchner, qui était quand même ministre des Affaires étrangères, ou comme Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'ISE, disent qu'il y a eu des livraisons d'armes, ils sont crédibles.
Voilà, c'était Mathieu Lopez de l'association Survie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Togo, 8 organisations de journalistes dénoncent l'article 497 du nouveau code pénal qui prévoit des peines de prison de 6 mois à 2 ans en cas de délit de presse. L'adoption de ce nouveau code pénal intervient alors que plusieurs journalistes sont inculpés sous contrôle judiciaire suite à une plainte du ministre des Finances accusé de détournement d'argent par 3 journaux de la presse privée. Nathalie Barge a joint à Lemay l'un de ses journalistes, Carlos Queteau, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant Express.
Nous n'avons rien contre le code pénal, dans la mesure où la justice togolaise devrait être dotée des instruments modernes afin de pouvoir traiter la question des pénalités. Mais seulement, nous, au niveau de la presse, nous nous insurgeons contre l'article 97 qui remet en cause la question du code de la presse qui a été dépénalisé depuis 2004. Au Togo, le code de la presse dispose des formules qui permettent aux journalistes de pouvoir réparer des torts causés à d'éventuelles victimes par certaines dispositions, notamment le droit de réponse, notamment des démentis, notamment le règlement à l'amiable. Il y a la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a aussi des pouvoirs régaliers. Il y a le tribunal des pairs qui est l'observatoire togolais des médias. On ne comprend pas pourquoi, de façon spectaculaire, le gouvernement togolais a introduit une disposition liberticide dans le code pénal en vue de punir les journalistes de la façon la plus sévère sur les questions du délit de presse. C'est une atteinte à la liberté de presse et au niveau de toutes les organisations, nous nous insurgeons et nous allons mobiliser.
Comment expliquez-vous justement ce revirement qui a fait que le gouvernement soit revenu en effet sur ce code de la presse adopté en 2004 qui avait exonéré de peines criminelles?
Nous avons constaté des tentatives de certaines autorités qui se sentent très mal à l'aise face aux dénonciations de corruption et ils pensent qu'on pourrait bloquer certains journalistes qui sont un peu trop critiques à l'endroit du gouvernement. Et il y a des plaintes contre certains journalistes dont notre journal L'Indépendant Express, et nous sommes formellement inculpés. Nous avons été écoutés par la direction de la police nationale, ce qui ne relève pas des prérogatives de la police. On a extrapolé la haute autorité. Nous avons été inculpés, et moi personnellement, par rapport à un article, il s'agit d'un ministre, le ministre des Finances, qui a porté plainte parce que nous avons dénoncé des détournements de fonds. D'abord, il a porté plainte au niveau de la haute autorité du ministère judiciaire et de la communication. Il a demandé d'adresser un genre de réponse que le journal est disposé à publier. Après, il a quitté la HAC, il a eu de plainte au niveau de la direction générale de la police. Je ne suis pas le seul. Il y a un autre journal, Liberté, et également Avis Alpha du journal Rendez-vous. Donc nous pensons que c'est une escalade d'atteinte à la liberté de presse qui est en danger, surtout à l'endroit de la presse critique qui commence un peu trop par dénoncer les grandes magouilles et malversations organisées par certains hommes du pouvoir. Aujourd'hui, le ministre en question n'a pas donné la preuve de contraire de ce que nous dénonçons, mais il s'engage plutôt dans une logique militaire et judiciaire pour avoir raison du journal.
Carlos Ketou, président de Journalistes pour les droits de l'homme au Togo.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Les personnes diagnostiquées HIV positives devrait commencer le traitement aussitôt après le dépistage au lieu d'attendre la diminution de cellules blanches connues comme les DC4. C'est ce qu'a récemment recommandé l'OMS. Cela est-il possible pour les pays africains? Pour répondre à la question, Eddy Sango, agent à Kinshasa, un responsable de l'Union congolaise de personnes vivant avec le VIH, Jean-Claude Mukendi.
Si on doit appliquer de façon aveugle cette recommandation-là, nous risquons d'être butés à des ruptures de molécules parce qu'on risque d'avoir un grand nombre de personnes qui seront sur la file d'attente qu'on doit mettre sous un RV et on risque de ne pas avoir les moyens nécessaires. Quand on recommande quelque chose, il faut donc aussi faire suivre les moyens.
Là, vous parlez du pays en général, de la politique nationale. Mais est-ce que vous pensez qu'individuellement, les Africains ou même les Congolais pourraient être à même de débourser de l'argent pour s'acheter ces ARV dès qu'ils ont été dépistés?
En tant qu'une personne physique, c'est un peu difficile vu si on prend les statistiques de la Banque mondiale qu'un Congolais vit avec moins de, je sais pas, de 10 dollars ou d'un dollar, moins de 10 dollars par jour. Voilà un peu parce que la prise en charge, c'est parce que le patient qui se prend en charge avec en dehors des ARV, mais il n'y a pas que l'ARV à prendre, il y a la nourriture, l'alimentation, il y a toute une gamme d'éléments qui accompagnent la prise des ARV. Ce qui fait que ce sera un peu difficile de demander à un Congolais physique de se prendre en charge comme ça. Ce sera un peu difficile. Parfois, il y a des ruptures de stock qu'on peut éviter facilement. Juste en communiquant l'information à Gérard.
Il y a quelques temps, il était dit qu'il fallait attendre un certain moment pour commencer les traitements et que c'était bon de commencer ces traitements ni très tôt ni très tard. Et que maintenant, comme l'OMS dit qu'il faut commencer précocement, qu'est-ce que vous en dites?
C'est toujours l'OMS qui avait dit qu'on devait attendre jusqu'à 350, le taux de CD4 pour mettre quelqu'un sous ARV. Si c'est un peu plus supérieur à 350, il fallait patienter. Bon, maintenant, elle a dit que vous êtes dépisté, quel que soit le taux de CD4, on vous met sous ARV. Oui, c'est bien. Mais seulement, est-ce que c'est tout le monde qui saura suivre ce régime-là? C'est en plus que ceux qui sont dans le besoin, on n'a pas encore réalisé la couverture de 100%. Est-ce que ceux-là qui vont s'ajouter, est-ce qu'on saura couvrir ça? C'est-à-dire qu'il faudra un peu plus personnaliser peut-être la recommandation par rapport à chaque cas ou chaque pays, voir comment on pourra intérioriser ou bien appliquer cette recommandation pour qu'il n'y ait pas de regret.
Jean-Claude Mukendi de l'UCOP Plus à Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges et Léonard Sagnon à la console Joe Gill. Présentation Morgane Guiriec, Eric Manirakidz.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24h sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.